L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur.
Bonjour et bienvenue dans le 252e numéro de l'Écho des Gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Et ce soir, comme chaque semaine père, le dimanche à 19h, je suis avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Et nous allons donc vous présenter l'actualité des logiciels libres et des libertés numériques des deux semaines écoulées. Et on va commencer, comme on a maintenant l'habitude, par des nouvelles sur la sécurité et la vie privée. Et pour changer, la police utilise la pédopornographie, utilise les enfants pour essayer de faire renoncer les entreprises de communication au chiffrement de bout en bout. Donc là, on va dire que l'entreprise en question, Meta, donc, qui est la maison mère de Facebook, n'est pas vraiment connue pour être une entreprise qui est très scrupuleuse avec la vie privée. Mais néanmoins, elle avait l'intention donc, de mettre en place le chiffrement de bout en bout des conversations. Alors, quand on parle de chiffrement de bout en bout, la question est de savoir toujours où sont générées les clés. Si c'est l'application de messagerie instantanée de Facebook qui les crée et que Facebook sait retrouver les clés,
ça sert pas à grand chose.
Ils peuvent toujours déchiffrer vos conversations. Donc c'est le Virtual Global Task Force, la VGT, donc qui est un groupe de travail de différentes organisations policières, donc et qui se donne pour objectif spécifiquement de lutter contre la pédopornographie, donc notamment via le fait d'empêcher, poursuivre les individus qui échangent des contenus pornographiques par Internet. Ce pourquoi on ne peut évidemment que les encourager, sauf que pas en employant des moyens qui sont contraires au droit à la vie privée et qui de toute manière ne sont pas nécessaires, puisque notamment dans un cas qui avait été soulevé par la VGT, donc un Britannique qui était considéré comme un des pires prédateurs sexuels de son pays, voire du monde. Le VGT avait donc mis en exergue ce cas pour dire que s'il n'avait pas pu accéder aux conversations, déchiffrer les conversations de cet individu, il n'aurait pas pu démanteler le réseau. Et Meta assure que non, en fait, c'est grâce à l'analyse de données privées et publiques, mais pas de données chiffrées. En tout cas, pas de données auxquelles Meta ne peut accéder, qu'a été permise donc l'appréhension de cette personne.
Après, globalement, de toute façon, s'opposer au chiffrement comme ça, c'est... À chaque fois, j'ai envie de refaire l'analogie. Est-ce qu'on accepterait que la police puisse ouvrir tous les courriers qui sont envoyés par la poste? Il me semble que non, ça ferait un scandale, personne n'oserait proposer ça, et pourtant là c'est ce qu'on nous propose finalement, on fait un traitement différent pour les échanges numériques, alors qu'on pouvait faire la même chose sur le courrier et on avait arrêté.
Surtout qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des régimes, même dans nos pays démocratiques, d'avoir des régimes plus autoritaires. Il faut voir ce que fait un gouvernement censément centriste qui habitue la population française à ce que pourrait faire un gouvernement d'extrême droite.
Ouais.
Ils ont déjà le ministre de l'Intérieur d'extrême droite pour les habituer.
C'est ça, oui. Il est centriste de droite extrême, quoi, par moment.
Ouais, en tout cas, c'est comme l'ancien directeur de campagne et l'ancien assistant parlementaire de Christian Van Est, député qui a été condamné pour des propos homophobes. Lui-même était un participant aux manifestations homophobes, les manifs pour tous.
Exactement.
Il a aussi qualifié Christiane Taubira de tractambulant pour le Front National. Il y avait de l'historique quand même.
Ah oui, il y a du passif.
Il y a un petit passif sur le bonhomme. On part du côté de Google. Alors Pierre, tu ne cesses de dire à longueur d'émission que le HTTPS, ça ne veut pas dire que c'est forcément sécurisé. Et Google Chrome va donc faire disparaître. Alors c'est pas le don qui est peut-être un petit peu péremptoire. Enfin péremptoire, non. un petit peu exagéré, puisque c'est pas sur l'appel de Pierre. Mais tout de même, je pense que ça va un peu dans ton sens, pour le coup. Donc, ne pas faire croire à l'utilisateur que HTTPS signifie sécurisation absolue de vos données.
Exactement. Il était temps que les navigateurs commencent à le faire. Alors, si Google Chrome commence, peut-être que les autres suivront, on ne sait jamais. Alors, c'est prévu pour septembre, donc j'ai encore un petit peu de temps. Mais voilà, ils ont décidé que désormais, il n'y aura plus l'icône du cadenas sur les sites en HTTPS, parce que c'est un vestige d'un ancien temps. Et ils n'ont pas encore précisé... alors, ils vont continuer d'afficher pour les pages en HTTP, donc sans chiffrement. Là, ils vont bien préciser, attention, là, c'est pas sécurisé. Ils vont mettre un message. Maintenant, qu'est-ce qui... En fait, le problème, c'est la valeur du HTTPS, finalement, a aussi considérablement changé à une époque où il fallait payer une certaine somme pour avoir du HTTPS et où il fallait faire des vérifications d'identité et autres pour avoir le certificat.
Je dois acheter quand même, alors pas dire gage d'authenticité, mais au moins gage que l'organisme derrière était quand même un minimum pignon sur rue, je veux dire.
Exactement. Donc là, à la place... ils vont juste supprimer l'icône, ils vont supprimer l'icône, il y aura une icône qui va ressembler à une icône de réglage, et où, quand on va cliquer dedans, là, il sera indiqué la connexion est sécurisée. C'est déjà bien mieux que, enfin, c'est mieux que d'afficher un cadenas qui donne une illusion de sécurité. Et dans les remarques qu'ils font, c'est que effectivement, tous les sites de phishing, ils prennent du HTTPS, ça coûte rien. C'est hyper facile à faire, c'est automatisé, c'est bien que le HTTPS soit généralisé. Le problème, c'est que les efforts pour avoir du HTTPS avec des certificats de meilleure qualité, on va dire des certificats validés, ça n'a jamais pris parce que ça, les navigateurs web l'ont jamais vraiment affiché, réellement mis en avant, et puis les procédures de vérification, elles étaient souvent un peu bidons, pour rester gentil. Donc forcément, il n'y a pas eu d'effort pour avoir quelque chose de mieux.
Quand on veut filtrer Internet, on utilise comme prétexte donc la pédopornographie, ce dont on vient de parler. On utilise aussi le terrorisme. Et le troisième prétexte, c'est le porno, Pierre.
Tout à fait. Et en ce moment, ça y va franco sur le sujet. Donc, on va parler États-Unis et France. Voilà. Le grand écart atlantique
jusqu'au Québec, jusqu'en Amérique.
C'est vrai, c'est vrai. Donc, tout d'abord, commençons par les États-Unis. Donc, il y a eu deux, trois petites actualités sur le sujet. Dans l'état de l'Utah, ça se dit comme ça en français.
L'Utah,
j'ai eu un doute à un moment.
L'État quand même plutôt conservateur.
Oui, oui. Voilà.
Fief des Mormons.
Exactement. Et donc, le site Pornhub, qui est l'un des principaux sites mondiaux de porno, a désactivé tous les sites, enfin, l'entreprise Pornhub a désactivé tous ses sites pour les adresses IP basées dans l'Utah, et en mettant à la place un message qui explique que, désolé, vous ne pouvez pas visiter ce site parce que la réglementation dans votre état nous demande de vérifier l'âge et il n'y a pas de solution qui existe pour vérifier l'âge. On ne peut pas vous demander votre carte d'identité à chaque fois. Et même le faire, ça vous mettrait en danger, ça mettrait votre vie privée en danger. Et effectivement, c'est un vrai risque de donner sa carte d'identité n'importe comment, y compris à ce genre de site. Même si c'est fait par des entreprises, même si c'était des entreprises qui avaient la meilleure morale du monde, donner sa carte d'identité comme ça...
En France, il y avait une idée de l'État pour... vérifier l'âge sans du coup compromettre sa vie privée.
Bon, avec, on en parle c'est... après.
Ah, ouais, voilà.
On
revient en France après.
Et petite conséquence que ça a eu aux États-Unis, donc dans l'état de l'Utah, la tendance sur donc notamment sur les recherches Google, donc Google fournit un outil Google Trends pour voir les tendances dans les moteurs dans les recherches sur Internet, et il y a eu à partir du moment où ce blocage a été effectif, il y a eu une explosion des recherches de VPN sur Google.
Bizarrement.
Donc, un VPN permettant faire passer votre connexion, au lieu de vous connecter directement au site ciblé, vous passez par un serveur dans un autre état et pouf!
Tu peux dire forcément, c'est pas parce que vous passez par un VPN que c'est forcément plus sécurisé.
Tout à fait, puisque le VPN, c'est ce que vous êtes en train de consulter comme site. Alors, il ne peut pas savoir le contenu puisque c'est chiffré en HTTPS, mais il peut savoir sur quel site vous êtes allé, à quelle heure, combien de temps. Et autre nouvelle du côté des États-Unis, en fait, aux États-Unis, il y a des groupes extrêmement actif et rattaché à certains groupements religieux, on va
tu
dire.
Tu l'apprends, Pierre. Je ne savais pas qu'il y avait un phénomène religieux réactionnaire aux États-Unis.
Voilà.
J'espère que ça va pas aller jusqu'à la Cour suprême tout de même.
Non, je pense pas. Non, on est à l'abri de ça quand même. C'est un pays moderne. Et donc, ils sont en train de faire, de mettre aussi la pression sur le site Reddit, donc qui est un site de, c'est un site social avec différentes catégories où les gens postent des liens principalement. Et ils sont en train de faire pression sur ce site pour bloquer toutes les catégories not safe for work de ce site. Alors que c'est l'un des sites où justement ces catégories-là sont masquées par défaut avec des demandes d'âge.
On a une nouvelle de 4chan ou pas ?
Je n'ai pas regardé pour 4chan, non. Donc voilà, aux États-Unis, ça progresse.
Mais Pierre, qu'en est-il en France ?
Eh bien en France, ça progresse aussi ! Alors, donc, il y a une loi qui est passée, on en a bien parlé sur cette antenne, Alexandre, tu en as reparlé indirectement en parlant de la mesure d'exiger l'âge sur les sites pornographiques. Alors, exiger l'âge sans fournir aux sites web en question de solutions techniques, parce que ça serait trop simple, c'est démerdez-vous les gens. Donc la solution technique est en cours de réflexion, validation, etc. Mais c'est loin. Et du coup...
C'est juste qu'on saurait que vous avez demandé 50 fois dans le mois une vérification d'âge. Oui, vous êtes très préoccupé pour vos impôts.
C'est exactement. Ça doit être ça. Et donc, le gouvernement prépare un projet... Alors, c'est le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Rien que le nom, c'est bonheur. Et donc, en fait, c'est une intégration dans le... Alors, petit rappel, les réglementations européennes sont derrière traduites en droit national. Et donc là, c'est l'intégration des obligations du DMA et du DSA européen dans la loi française. Alors, on n'a pas tous les détails encore, mais l'un des articles vise à modifier le dispositif qui a été mis en place en juillet 2020 sur l'interdiction de l'accès au contenu pornographique pour les mineurs. Parce que il se trouve que le gouvernement n'aime pas le mécanisme qu'ils ont mis en place. Vous savez, en 3 ans, ils ont eu le temps de se rendre compte que on n'aime pas, on va en changer. Alors que le problème, c'est d'avoir mis ça en place sans fournir solution technique acceptable pour le contrôle de l'âge.
Que tu dis France Connect.
Ça a été envisagé.
Ça a été envisagé. Ça a été envisagé. On en a déjà parlé.
Attention. Non, France Connect Plus, c'est encore mieux. On va pas parler de ça, c'est énervant. Et donc, le mécanisme qui est en place actuellement, c'est simple, c'est l'ARCOM qui met en demeure les sites, les éditeurs, en disant « contrôlez clairement l'accès au site », et au bout de 15 jours, si l'éditeur n'a pas agi, alors l'ARCOM va saisir le tribunal judiciaire qui va pouvoir prononcer le blocage ou le déréférencement du site. Et donc, la nouvelle procédure, c'est simple, il n'y aura pas besoin de juge. L'ARCOM, au bout de 15 jours, ils vont pouvoir prononcer le déréférencement et le blocage administratif du site. Fin. Voilà.
D'accord, donc l'ARCOM a le droit de vue ou de mort sur un site internet français.
Non. Sur un site internet en France.
Une nuance.
Oui, il y a une nuance. Elle est sévère, oui, quand même.
Oui, sur un site internet en France, effectivement.
Oui. Donc, ça veut dire des blocages sans décision d'un juge. Alors, le blocage pourra être contesté en saisissant le juge administratif, mais ça va être, c'est assez violent, je trouve, comme
c'est
régime.
C'est bien de voir cette instance prise en main par un gouvernement qui serait, par exemple, dirigé par un parti ou dans une ville que je nommerais Hénin-Beaumont. La mairie, par exemple, harcèle les journalistes à coups de droits de réponse abusifs. Par exemple, imaginez ces gens-là nommés les responsables des organismes de régulation.
Voilà.
Ça va être rigolo.
C'est vraiment bien, bien parti.
Alors, tu parlais donc de la réglementation européenne, et donc la Commission européenne a publié donc au titre du DSA la liste des grandes plateformes qui seraient donc concernées.
Exactement. Alors, la liste, il y a plusieurs trucs auxquels on s'attend. Donc, Alibaba, AliExpress, Amazon Store, Apple App Store, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, YouTube, Instagram, LinkedIn. Je vous fais la liste complète, elle est assez courte.
Et Wikipédia.
Mais, ah, bon, ok, t'as raccourci. Il y en avait encore 5 autres, apparemment. Et donc, oui, Wikipédia. Il y a Wikipédia dedans. Pardon ? Donc, en fait, qu'est-ce que c'est cette liste ? En fait, il y a deux listes au sein du DSA. Il y a la liste des très grandes plateformes en ligne et la liste des très grands moteurs de recherche. Donc, les très grands moteurs de recherche, il y a Bing et Google Search, grosso modo, hein, c'est tout. Et donc, oui, dans les grandes plateformes, et qui auront un ensemble d'obligations quand même assez sec, ben ils ont mis Wikipédia. Alors le critère qui fait que Wikipédia a été considéré, c'est que il faut avoir au moins 45 millions d'utilisateurs actifs par mois. Ce qui est le cas de Wikipédia, effectivement. Mais du coup, les obligations, ça va être la possibilité pour les utilisateurs de soustraire au système de recommandation fondé sur le profilage.
On est assez tranquille. La publicité Wikipédia, également, pas de problème. On est assez tranquille sur Wikipédia.
Pouvoir signaler facilement des contenus illicites avec un traitement assez rapide. Là déjà, pour un système qui est géré par des bénévoles, ça m'embête. Après, l'autre point concerne aussi le ciblage publicitaire. Donc ça, c'est pas grave. Mais ce qui me gêne, c'est comment on va faire sur Wikipédia, sur un projet qui est entièrement géré par des bénévoles, pour gérer avec diligence les contenus illicites signalés. Et d'ailleurs,
demande à Rémi Matisse.
Comment ça va être arbitré ? Les États n'ont pas tous les mêmes réglementations pour les contenus, pour la licéité des contenus. Comment ça va se passer ? Il n'y a pas suffisamment de bénévoles dans tous les pays. Et tout le monde n'est pas aussi bien doté que la Wikipédia anglo-saxonne ou la Wikipédia francophone ou l'allemande. Il y a des pays européens où la Wikipédia, il y a quand même beaucoup moins de gens. Donc comment ça va se goupiller tout ça ? J'avoue, je suis assez curieux. Je ne m'attendais pas à voir Wikipédia dans la liste.
On n'aura pas au moins la solution indienne qui consiste, ou pakistanaise qui consiste à dire « Ces articles ne me plaisent pas, je sortirai Wikipédia ».
Voilà, c'est un petit peu plus. On ne voudrait peut-être pas arriver à ce niveau-là.
On retrouve d'autres nouvelles. Après un premier morceau de musique, nous allons écouter Conveil, Chalkboard. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Into my eyes and tell me yes, sir, yes, sir. Oh, yeah. Your world is-
C'était Conveil, chaque board. Vous écoutez les codes GNU sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la deuxième partie des actualités. On va continuer avec de la sécurité et de la vie privée. On va faire un petit peu technique. Tiens, on va parler Rust, Pierre. Donc,
oui,
Microsoft réécrit des morceaux du noyau de son système d'exploitation Windows en Rust, Pierre.
Tout à fait. Ben oui, Linux le fait. Alors, Linux ne fait pas des réécritures, c'est des nouveaux pilotes qui vont être écrits directement en Rust, mais là, du côté de Microsoft, c'est encore plus extrême, notamment parce qu'eux peuvent le faire, mais eux, ils sont en train de commencer à réécrire des morceaux de Windows en Rust. Donc, petit rappel des faits, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission. Les problèmes de sécurité en informatique sont liés notamment au choix du langage de programmation C, qui est un langage de programmation d'assez bas niveau, qui permet extrêmement facilement de faire des boulettes. Alors les boulettes, ça peut être un crash, ou ça peut être beaucoup plus violent, ça peut être
une faille de sécurité majeure.
Voilà, la plupart des failles de sécurité aujourd'hui sont liées à ça, c'est ce qu'on appelle les problèmes de memory safety, donc de sûreté de mémoire, on va dire en français. Je suis désolé, j'ai pas de bonne traduction à vous proposer là comme ça.
De sécurisation de la mémoire.
Voilà, c'est de contrôle des accès de la mémoire. Et donc le langage Rust qui a été créé par Mozilla, je tiens à le rappeler et à le souligner, sans Mozilla on n'aurait pas cette révolution qu'il y a en ce moment autour de Rust. On leur doit vraiment ça.
Alors Pierre, j'aurais une question là-dessus. Donc tu me dis que le C est sujet donc aux erreurs. Et c'est un langage bas niveau. Est-ce que c'est intrinsèquement lié au côté bas niveau? Est-ce que dire le Java ou les langages interprétés comme le Python est-ce que sont moins à risque? Alors, tu fais moins de choses, donc tu peux faire moins de bêtises.
En fait, les langages bas niveau nous.
Tu es plus près de la machine, donc tu peux.
Ils te donnent beaucoup plus la possibilité de te tirer une balle dans le pied. Dans un langage comme Java ou Python, ce que tu vas avoir, c'est des bugs ou des failles de sécurité. Ce que tu peux en avoir, il n'y a aucune raison de ne pas avoir de failles de sécurité dans ces langages-là. Un programme écrit en Python ou en Java avec des failles de sécurité, j'en ai déjà rencontré dans mes milieux professionnels. Dans les boîtes où j'ai bossé, j'ai déjà vu des failles de sécurité écrites en Perl, en Python, en Java, c'est aucun problème. Mais ce sont des erreurs dites de logique. Et c'est des erreurs que tu peux assez facilement repérer. En C, les erreurs peuvent être extrêmement pointues à repérer parce que c'est plus que de l'erreur. C'est pas seulement une erreur de logique.
Bon développeur, c'est-à-dire qui pense bien, peut laisser passer presque involontairement une faille de sécurité.
Ah oui, complètement involontairement. Oui, il y a aucun problème. C'est extrêmement difficile à voir en C parce que il y a certaines sémantiques dans le langage C où on n'est pas garanti de ce qui va se passer. Parce qu'il faudrait explorer tout, il faut connaître tout le code qu'on manipule pour comprendre ce qui va être fait de l'appel de fonction, de ce qu'on vient de créer en mémoire. Et donc, l'absence de contraintes là-dessus, c'est l'un des avantages du C. En Rust, il y a tout un ensemble de contraintes. Alors, on peut écrire du code système de bas niveau, c'est ce qui est fait par Microsoft pour Windows, c'est ce qui est fait par Linux, donc dans l'intégration de Rust dans le noyau Linux. Mais on est obligé de marquer, on dit, attention, ici, on débraye les sécurités et je fais des opérations qui sont marquées unsafe. Et ça permet, en fait, lorsqu'on fait des relecteurs de code, de se concentrer, on voit unsafe, on fait OK. Là, je fais gaffe. Là, je vérifie qu'il n'y a pas une erreur à cet endroit-là. Et ça marche. Ça marche à la fois pour Firefox, ça a marché pour améliorer les performances, améliorer le système, tout en ayant quelque chose de beaucoup plus maintenable que ce que ça n'était avant. Là, si Microsoft se met à réécrire des bouts du noyau Windows avec Rust, c'est pas sans raison. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont des failles de sécurité qui sont provoquées par l'utilisation du langage C. Et Microsoft, depuis le début des années 2000, a fait énormément d'efforts sur son outillage, la formation de ses développeurs pour réduire les failles de sécurité. Et pourtant, il continue d'en avoir. C'est parce que on en a déjà parlé dans cette émission, c'est pas des problèmes
de
compétences, c'est des problèmes systémiques. Et un problème systémique, pour le régler, il faut revoir le système. Et là, en l'occurrence, c'est revoir le langage de programmation. Donc c'est une excellente nouvelle que Microsoft se lance là-dedans. C'est aussi une bonne nouvelle parce que Rust, c'est un langage développé sous forme d'un logiciel libre. Donc ils y contribuent déjà. Ils ont déjà fait des patchs pour améliorer leur utilisation au sein du noyau Windows. Et c'est juste, c'est une bonne chose aussi, globalement, je trouve, pour le monde de l'informatique, d'avoir moins de failles de sécurité, que ce soit chez Windows ou enfin sur les logiciels privateurs ou sur les logiciels libres, c'est tant mieux pour tout le monde. Et si ça peut montrer à tout le monde que on peut faire des choses, on peut améliorer la situation, tant mieux.
S'il y a bien des programmes qui sont sujets, dirais, ou plutôt dirais-je, où une faille de sécurité peut être vite critique sur un système, c'est les commandes qui permettent d'élever les privilèges d'exécution d'un programme sudo ou su qui permet de changer d'utilisateur ou de, s'il n'a pas été inhibé, de pouvoir prendre le contrôle de l'utilisateur root. Et donc ces deux programmes vont être écrit en Rust.
Tout à fait, c'est un exemple de, aussi de, bah de, du passage à Rust.
Il y a les prochaines versions seront en Rust.
Bah alors, c'est des projets à côté, donc on ne sait pas à quel point, on ne sait pas comment ça va se passer. Attention, mais c'est juste, c'était pour illustrer aussi qu'il y a des avancées autour de Rust et aussi sur les utilisateurs systèmes de ce genre. Parce que bah, tous les logiciels peuvent être plus ou moins concernés par les failles de sécurité. Il y a déjà eu des failles au niveau de sudo ou... Ben, en tournant bien les choses, on pouvait passer root, donc administrateur sur la machine, sans en avoir réellement les droits. Ben, oui, c'est une faille de sécurité et ça a été des failles relativement majeures. Alors après, dans les arguments contre, enfin, on va dire, qui disent que, attention justement, et c'est aussi pour ça que le site, c'est que il y a eu plusieurs failles de sécurité, notamment sur sudo, qui n'étaient pas des failles de mémoire, mais des erreurs de logique dans le code. Et là, par contre, la réécriture en Rust, au contraire, elle va introduire des nouvelles failles, puisque ben, une réécriture, ça veut dire pouvoir réintroduire des erreurs logiques en faisant mal le travail dans la nouvelle version.
Pierre, tu voulais donner des nouvelles de la Startup Nation.
Merde, c'était laquelle l'actualité ?
Ah oui !
Celle-là, à Paris.
Elle était rigolote.
Elle est rigolote, celle-là. Ouais.
Bon, des fois, on trouve juste qu'ils prétendent révolutionner le monde avec des business plans foireux.
Ah mais là, eux ils ont fait fort. Moi, je les aime beaucoup, ceux-là. J'avoue, la
startup, ils ont des jeunes entrepreneurs.
C'est ça, de jeunes entrepreneurs, donc de 27 et 31 ans, qui ont créé une startup de marketing digital et avec de l'envoi SMS de masse, donc qui s'appelle Sion Data Agency, qui est basée à Neuilly-sur-Seine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette...
Des jeunes de banlieue en plus, qui entreprennent.
Des jeunes de petite banlieue, des jeunes de pauvres banlieues qui ont besoin qu'on les aide. Ah, c'est tellement beau. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait comme service réellement innovant, ces gens ? Et donc, ils ont... en voiture, au sein de Paris, ils sont baladés avec des IMC catchers pour balancer des centaines de milliers de SMS. Donc, ils ont envoyé pour 424 000... pour inciter les gens à aller, alors avec des faux messages de l'assurance maladie ou des faux messages de conseiller bancaire, pour, ben c'est du pur phishing. Et donc les IMC catchers, alors en France, sont en théorie réservés aux services de renseignement ou aux unités spécialisées de police ou de gendarmerie.
Pierre, on va quand même expliquer ce qu'est un IMC capture. C'est donc une borne qui s'intercale entre l'antenne relais, donc là où vous connectez au réseau de votre opérateur et votre téléphone, et qui va donc répondre à sa place. Et votre téléphone croira en fait être connecté à une antenne relais, et en fait il sera connecté à l'IMC catcher, donc d'où son utilisation fréquente par les forces de police.
Exactement.
C'était du trafic. C'est la version mobile du Man in the Middle, l'homme du milieu.
Exactement. C'est la version mobile du je vais me brancher sur le câble de la ligne téléphonique.
Un peu ça.
C'est assez violent. Et alors, ils ont dit ah non, on n'a pas utilisé.
C'est mieux que ça parce que si tu te branches sur le câble de la ligne téléphonique, tu peux intercepter le trafic. Hein, tu peux juste écouter. Là, tu peux en plus répondre en faisant croire.
Ah oui.
Ça, c'est plus malin encore.
Et donc, ils ont dit que... alors non, c'est pas des IMC catchers, c'est des cell broadcasters qui permettent d'intercepter pour les premiers les messages, et les seconds, ils servent à envoyer les données. C'est des IMC catchers, c'est pas d'autres mots.
Je crois qu'ils se moquent de nous.
Oui, et ils auraient acheté leur matériel. Alors c'est un truc que je trouve assez rigolo. Et ça leur a coûté 18 430 €, ce qui me semble pas cher par rapport à la violence que c'est ce genre d'outil. Et ils ont acheté ça auprès d'un vendeur chinois qui, je cite, « propose aussi des armes de guerre, en particulier des robots tueurs, des drones d'attaque et des missiles sol-sol ».
Heureusement qu'ils ont acheté que les IMC catchers.
C'est ça. Mais donc, C'est leur projet de start-up tourné autour de Maître.
C'est du phishing.
Non, moi j'aime bien la Startup Nation quand elle fait ça. Ça fait plaisir. Comme quoi, on sait innover en France. Ah, ils ont été arrêtés.
Dieu merci. Ou autre chose pour tous les athées qui nous écoutent et les animateurs, les premiers. Nous allons donc écouter un deuxième morceau de musique pour se remettre de toutes ces émotions. Nous allons écouter The Bourgeois, Perverting the American Dream, et The American Dream of the Startup Nation 2, sur les codes GNU, Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'était The Bourgeois ou The Bourgeois, je ne sais pas, c'est un groupe anglo-saxon, Perverting the American Dream. Vous écoutez les codes GNU sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la troisième partie des actualités et on va parler de logiciels libres, bien évidemment.
Pas que,
mais pas que, hein. Mais pas que, mais on va commencer par une sortie logiciel libre. Un logiciel KDE, donc qui est forcément cher au cœur de Pierre, c'est KDE Live, donc qui sort en version 23.04. Un peu comme Ubuntu, du coup.
Ouais, ils sont nombreux à passer à ça. En fait, c'est moins chiant.
Alors, de nombreuses nouvelles fonctionnalités, mais une qui a l'air assez intéressante, c'est l'intégration, un module.
Un logiciel de montage vidéo, hein, KDE Live.
C'est un logiciel de montage vidéo. Merci, Pierre, de le rappeler. C'est vrai que quand elle, j'ai la photo devant les yeux, donc forcément ça paraît évident. Donc logiciel donc de montage vidéo qui fait partie de la suite KDE, donc de l'environnement KDE, de l'écosystème KDE.
Et voilà, l'écosystème.
Et qui donc a pour nouvelles fonctionnalités majeures, notamment l'intégration d'un module de reconnaissance automatique des paroles, pour du texte, pour faire des sous-titres. Plutôt sympathique. Pour les gens qui écoutent, qui veulent traduire des séries ou des dessins animés ou des films un petit peu. Donc,
j'avais zappé qu'il y avait eu ça, c'est vrai que moi je vais aller l'essayer. Tiens.
Ouais, sinon, mais c'est intéressant pour qui écoutent des choses un peu confidentielles, qui ne sont pas forcément sous-titrées. Alors je sais que c'est une pratique qui est assez courante chez les amateurs de manga, notamment, avec les fansubs, mais voilà, pas que. Donc si vous aimez les films chiliens qui ne passent que dans trois cinémas au Chili, éventuellement, ça peut vous intéresser. Donc je rigole un petit peu, mais.
Par contre, attention, ça demande beaucoup de puissance de calcul. Il faut une bonne carte graphique pour faire la. En fait, ça utilise la carte graphique pour faire l'analyse du son. On pourrait parler longtemps de la puissance des cartes graphiques pour ça. Mais du coup, ça demande
une bonne carte son. Il y avait des vraies cartes son dans les télés.
Non, là, c'est pas une question de carte son. C'est vraiment, faut un processeur. Enfin, faut un processeur
un
type. De, voilà,
c'est le traitement du signal.
C'est le traitement du signal. Et ça, c'est extrêmement adapté aux processeurs de cartes graphiques. Alors que sur les processeurs de vos PC, c'est pas du tout adapté. C'est pas le même type de fonctionnement du tout. Donc. Juste ce bémol, mais sinon ça, la fonctionnalité a l'air plutôt sympa. C'est vrai que je ne l'ai pas encore essayé.
System 76 prévoit de fabriquer son propre ordinateur portable en open hardware et son environnement de bureau.
En Rust, ouais, super.
Ah, c'est la fête de Rust.
Non, c'est la fête de Rust. Hein, mais... Alors System 76, c'est un fabricant de matériel. Alors ils vendent, aujourd'hui, ils vendent des PC fixes. Alors, notamment le Mer 4 et quelques autres machines. Et ils ont l'intention de faire en open hardware. Alors, je ne sais pas à quel point ce sera ouvert. C'est pour ça que vous ne le voyez pas, hein, mais dans le wiki ici, j'ai mis des guillemets pour dire bon, à quel point ce sera ouvert. Moi, j'ai des gros doutes quand même sur avoir un système vraiment libre. Je pense que ça va plutôt être des machines qui vont être. Réparable, bien documenté, où on pourra peut-être avoir les plans, mais je doute que le niveau logiciel sur les machines, ça soit plus ouvert que la machine lambda que vous trouverez. Parce que bah, on n'a pas trop le choix avec les processeurs Intel et AMD de nos jours. Ça pourrait changer. Il y a eu des actualités, je ne les ai pas prises pour cette émission parce que j'attends d'avoir plus d'infos. Et donc, bah, ils ont annoncé, voilà, ils ont dit, là, on va faire des ordinateurs portables en open hardware à suivre. Qu'est-ce que ça veut dire un ordinateur portable open hardware? Eh bien, on ne sait pas exactement.
On a parlé libre.
Oui, pardon. Et l'autre actualité, voilà, ils ont dit, ah, on va faire notre propre environnement de bureau en Rust. Alors, j'avoue, on en a déjà parlé ici. Hein, ils continuent de travailler dessus. J'avoue, je suis assez sceptique. Hein, on verra ce que ça va donner. C'est vrai que le monde Linux avait besoin d'un nouvel environnement de bureau pour concurrencer GNOME et KDE. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été annoncé. Tiens. Ça nous manquait. Moi, alors pour ceux qui ont connu le début des années 2000, franchement, moi, ça me manque pas du tout cette époque-là. Parce qu'il y avait des projets intéressants qui sortaient, mais.
Dont un projet Looking Glass 3D, par
exemple. Ah oui, non, mais c'était des projets de recherche, en fait, ces trucs-là.
Celle qui a contribué, c'était un environnement tout 3D. Bon.
Ouais, c'était intéressant.
Ça n'a pas spécialement pris au niveau.
Non, ça risquait pas. Ça risquait pas, mais c'était des projets qui étaient intéressants à voir. Maintenant, de là à investir. Beaucoup de temps et de ressources aujourd'hui pour développer un nouvel environnement de bureau. En fait, ils apportent rien. Ils annoncent pas qu'ils apportent quelque chose de particulier. C'est juste, on l'écrit en Rust. Là, par contre, pour le coup, c'est léger. Surtout que les problèmes de sécurité sur des environnements de bureau, on n'en parle pas trop.
On a parlé libre, maintenant on va parler de Microsoft. Alors il y a un bon point et un mauvais point. Pierre, on commence par lequel ?
Ah bah on va, dans les deux cas, on va parler d'abus de position dominante.
Est-ce qu'on va parler de l'abus de position dominante où il faut un peu marche arrière ou celui où ils ont été pris dans le pot de confiture ? Ah, toujours le même pot de confiture d'ailleurs, depuis 25
mais
ans.
Mais les deux, c'est le même pot de confiture en quelque sorte. Hein, c'est la vente liée et puis c'est bon, ça passe. Alors il y en a un, c'est c'est bon, ça passe, et l'autre, c'est bon, ok. On est allé trop loin.
Bon, ils sont allés trop loin et donc ils ont voulu imposer Teams, leur outil de vidéoconférence, avec Office. Et ils annonçaient qu'ils allaient arrêter suite aux plaintes répétées.
Voilà, c'est suite aux plaintes répétées de pas n'importe qui, de l'Union Européenne qui a commencé à agiter le gros lot de l'antitrust. Donc,
ça n'a pas fait grand-chose, mais je sens qu'ils ont même senti le vent du boulet passer.
Okay, ouais, ils l'ont senti passer. Ils ont
ça, ça les rend nerveux tout de même.
C'est hein. Ouais, oups, ok, d'accord, c'est bon, ok, on va changer. Et donc ouais, ils intégraient Teams, et en fait, ils le font de force, lorsque t'achetais une licence Office, t'avais Teams avec, ils ont dit ok, on va pas arrêter. Et par contre,
le pot de confiture pour moi c'est toujours le même, hein. C'est quand même celui-là en particulier, c'est vouloir imposer son navigateur avec son système de flottation. Autant tu vois, Teams, il y avait un peu une innovation dans l'abus de position dominante, alors que là ils essaient toujours la même chose.
Exactement, et donc là ils ont fait une mise à jour de Windows 11 je crois, pour regarder les détails, je crois que c'est Windows 11, qui casse une fonctionnalité de Google Chrome. Google Chrome, donc, ils avaient intégré un bouton pour changer en un clic le navigateur par défaut, parce que c'est vrai que depuis Windows 11, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il y a eu une mise à jour de Windows qui a cassé ce truc-là, et en fait, c'était horrible apparemment. En entreprise, à chaque fois que quelqu'un ouvrait Chrome, la fenêtre de paramètres de Windows s'affichait. Au moment où tu lançais Chrome.
C'est très énervant.
Ça doit être extrêmement énervant. Et il n'y avait aucune solution pour l'empêcher, à part supprimer la mise à jour Windows qui avait été installée.
Donc supprimer les éventuels patchs de sécurité qui ont pu être intégrés.
Donc Google a dû faire marche arrière et désactiver la fonctionnalité dans Chrome. Et tout. C'est vraiment... C'est à l'ancienne, quoi. Moi, je trouve ça magnifique.
Alors, on a parlé de Google, on a parlé de Microsoft... On va parler un petit peu d'Apple.
Oui.
Donc, vous savez que donc, la Commission européenne a imposé le format standard partout.
L'USB-C.
Donc, c'est l'USB-C. Donc, ce format standard, voilà, je parlais du. Toi, tu parles de la réalisation technique, j'avais parlé du principe général.
Oui.
Et donc, ils ont fini par contraindre Apple, mais Apple a décidé quand même de jouer au CON.
Ah oui, donc,
oui là, bon, ils d'accord, ont... mais si c'est pas notre câble, ça marchera moins bien.
C'est ça.
L'Union européenne a dit arrêtez de vous payer notre tête.
C'est ça. Ils ont la Commission européenne. En fait, c'était des rumeurs. Il y avait des rumeurs pour le fait que il faudrait des câbles avec le logo certifié Made for iPhone pour avoir toute la vitesse de charge ou toute la vitesse de transfert de données. Et donc c'était que des rumeurs, puisque les affaires en question ne sont pas encore sorties. Mais du coup, la Commission européenne a quand même jugé nécessaire d'envoyer une lettre d'avertissement à Apple pour dire...
La rumeur était quand même prise au sérieux par l'Union européenne.
Après. Ils ont dit, non mais, vous faites ça, vous êtes morts, quoi. Ils l'ont sûrement pas dit comme ça, mais ils ont dit, bon... Donc là, ça va pas le faire, les mecs. Vous limitez pas à vos câbles uniquement. C'est pas possible.
Apple qui était également poursuivi pour abus de position dominante par Epic Games et Apple a gagné.
Hélas,
Epic a perdu, ça dépend du point de vue.
Ça dépend du point de vue, mais dans l'ensemble, tout le monde a perdu finalement. Donc Epic Games qui avait qui attaquait Apple sur l'abus de position dominante avec l'App Store, puisqu'il est il est encore. Aujourd'hui, impossible d'installer des applications sur iPhone autrement qu'en passant par l'App Store. Et il y a une taxe Apple sur tout dans l'App Store, y compris sur les transactions au milieu des applications. Lorsque vous achetez un machin dans votre application gratuite, vous achetez un machin à 5 euros, il y a X euros qui sont reversés. Je crois que c'est 30% qui sont pris par Apple. Point. Et donc, pour Epic Games qui vend des jeux vidéo mobiles où c'est utilisé massivement, c'était tout à fait inadmissible.
C'est un peu leur business model, c'est leur vache à lait.
Et non, les juges aux États-Unis ont considéré que non, il y a des concurrents à Apple qui existent, il y a les iPhones et les Android, donc ouais. C'est bon, il n'y a pas de position dominante.
Ça dépend de quel point de vue, voilà, toujours tu le places, effectivement, il y a une concurrence sur les exploitations. Alors pour un même appareil, c'est quand même compliqué d'avoir de la concurrence, mais sur un Apple, alors je sais pas si quelqu'un a déjà essayé de le faire fonctionner, sûrement quelqu'un a réussi à le faire fonctionner avec autre chose, mais ça ne doit pas être trivial.
Non, ça ne l'est pas du tout, c'est pour ça que c'est de la position dominante, en fait. Et moi, je suis extrêmement déçu, finalement, que ça se conclue comme ça. Parce qu'il y avait matière. Mais bon.
On retrouve une dédicalisation après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter Rolls Miles, Twist City. Vous écoutez les Codex News sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusville.com. Walk through streets mean and gritty, silent souls drifting, too weary to cry. Spend some time in a twisted city, sullen nights and sodded days. Never asked for hope nor pity, was lost to God, never even prayed. A ring of roses, a pocket full of posies. All the little children lie down and die. A ring of roses, a pocket full of posies. Life can't kill you, it can only try. Met a man in a twisted city, couldn't tell if he were dead or alive. Asked him why, he answered with me, boy, you do what you do to survive. A ring of roses, a pocket full of posies. All the little children lie down and die. A ring of roses, a pocket full of posies. Life can't kill you, it can only try. Tinker, tailor, soldier, sailor, rich man, poor man, beggar man, thief. I've seen things in this twisted city that soil my soul and beggar belief. Pocket full of posies, all the little children lie down and die. A ring of roses, a pocket full of posies. Life can't kill you, it can only try. Look for love in that twisted city, a Josephine for this Bonaparte. Found no love in that twisted city, all I found was a broken heart. All I found was a broken heart.
C'était Rolls Miles, Twist City. Vous écoutez les Codex News sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusville.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. Clés privées fuitées ou la boulette. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, j'ai demandé quelques explications à Pierre sur les conséquences, mais il veut garder la surprise et même à moi. Je vais découvrir en même temps que vous,
oui,
chers auditeurs.
Parce que là, c'est allé assez loin quand même. Et c'est quand même de la grosse boulette. Donc tout d'abord, juste un petit rappel sur qu'est-ce que c'est une clé privée. En fait, le principe du chiffrement par clé privée, clé publique, juste c'est nécessaire pour comprendre la suite de l'histoire et comprendre tout le sel de cette petite nouvelle. Donc, le principe est simple. Avec la clé publique, vous pouvez chiffrer un message que seul quelqu'un possédant la clé privée peut déchiffrer. À l'inverse, vous pouvez, avec la clé privée, signer un message que seul quelqu'un, avec la clé publique peut valider. Ça, c'est pas un problème. Mais surtout, seul vous pouvez signer quelque chose qui sera conforme à la clé publique.
Pour résumer, votre clé privée sert à signer, votre clé publique sert à chiffrer.
C'est ça. Et surtout, la clé privée, c'est vous êtes les seuls normalement à pouvoir signer avec, et c'est crucial. Par exemple, vous avez tous sur vous plusieurs clés privées. Vous avez notamment les clés privées de vos cartes bancaires, la clé privée de votre carte SIM, et ces clés privées ne sortent jamais. Jamais, Vous allez payer dans un magasin, la clé privée, elle ne sort pas de votre carte à puce.
D'ailleurs,
c'est hors de question, c'est pas normal.
Les clés privées sur votre ordinateur, si vous en avez, doivent être stockées sur, dans un répertoire où personne ne peut accéder sauf le programme qui va s'en servir.
C'est ça, ou vous êtes plus paranoïaque et vous avez une carte à puce pour votre ordinateur. Ça se fait aussi. Alors dans le monde de l'informatique, on appelle ça un HSM, Hardware Security Module. Fin de la présentation générale, parlons de l'actualité fort rigolote qu'il y a eu. Une entreprise s'est fait attaquer avec un petit ransomware. On leur a dit, vous payez X millions, sinon les données qu'on a chopées, elles sont publiques. On les diffuse.
Classique.
Classique, ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé, du coup les données sont publiques.
Il y a
du lourd, il y a du très très lourd. C'est très 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 lourd. Donc l'entreprise en question, c'est MSI, qui est un fabricant de matériel informatique, dont notamment des ordinateurs portables. Qu'est-ce qui a fuité? Eh bien, il y a des clés privées qui ont fuité, ce qui veut dire déjà que les clés privées étaient sur des ordinateurs, elles n'étaient pas dans des modules de sécurisés, elles n'étaient pas dans des cartes à puces, elles n'étaient pas dans des tokens USB. Il y a plein de solutions techniques qui font qu'il est déjà inadmissible que les clés privées aient pu fuiter comme ça. De la part d'une entreprise comme MSI, c'est inadmissible. Les clés privées en question, les actualités sont toutes récentes, hein, elles datent de ce week-end, donc si ça se trouve, on trouvera encore d'autres trucs fun après. Mais les clés privées en question, déjà, la première clé privée qui m'a bien marqué quand j'ai vu qu'elle était sortie, c'est la clé privée qui est utilisée pour signer les mises à jour des firmware des machines. C'est-à-dire que si vous avez une machine, un ordinateur MSI, le firmware peut être altéré. Et alors, le point positif, vous pouvez installer un firmware libre plus facilement, parce que vous pouvez signer votre propre firmware libre. C'est bien, parce que justement, jusqu'à maintenant, c'était un peu bloqué. Si ça se trouve, pour le libre, il y a peut-être des avantages, mais globalement, pour votre sécurité personnelle, ça veut dire que vous ne pouvez plus faire confiance de manière aveugle, on va dire, aux mises à jour. Parce que jusqu'à maintenant, une mise à jour du firmware, c'est des mises à jour qui sont devenues de plus en plus importantes, malheureusement.
Il n'y a pas de mécanisme de révocation d'une clé.
Ah ben, à ce niveau-là, ça devient compliqué, puisque la clé, elle est un petit peu dans le matériel.
Oui.
C'est chaud. C'est très chaud à révoquer. C'est très très chaud. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il n'y a pas que celle-là qui a fuité. Et là, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est possible, ce que je vais raconter. On va juste expliquer un tout petit peu le mécanisme de sécurité, notamment on va parler un tout petit peu de Secure Boot, donc qui est un truc qui est imposé par Microsoft, qui fait bien chier les libraries, s'il n'y a pas d'autre mot. Ça a ses avantages, faut le dire vite. En fait, le principe est assez simple. Sur les ordinateurs avant l'introduction de Secure Boot, lorsqu'on démarrait, l'ordinateur, bête et méchant, le processeur, il commençait à exécuter du code à une adresse, et puis c'était marre. Et ce qui se passait derrière, voilà, ça a exécuté, et puis si c'était le code qui devait exécuter, tant mieux. Si c'était du code malveillant qui avait été injecté à son endroit, tant pis. Le principe de base était l'ordinateur, il est bête et méchant, il exécute ce qu'on lui demande d'exécuter. Avec des principes comme Secure Boot, ce mécanisme-là a complètement changé. On demande au processeur d'exécuter du code, qu'il valide la signature du code avant de l'exécuter. Ensuite, tous les maillons de la chaîne. Donc le premier code, ensuite le firmware, l'UFI, le bootloader, le noyau, les pilotes, etc. Tous les maillons, ils vérifient la signature les uns les autres. Pour dire, c'est bon, l'ordinateur, il est fiable. Il n'y a pas un composant malveillant, il n'y a pas un composant qui a été détourné de son usage. Personne n'a fait de choses malveillantes dans le système. Déjà, avec la fuite de la clé privée de MSI, tout Secure Boot s'effondre pour les machines MSI. Puisque... En fait, la signature des composants de MSI au début du firmware, cette signature-là, elle n'a aucune valeur. Puisque, on ne sait pas, n'importe qui peut signer à la place de MSI. Donc déjà, on avait un premier problème.
Donc on peut contrefaire un UEFI...
Un UEFI MSI. Et maintenant, allons plus loin, il y a une autre clé privée. Et ça, je ne comprends pas encore... Comment c'est possible? Il y a une autre clé privée qui a fuité dans le lot. Et donc pour ça, on va reprendre ce que j'ai dit. Donc je vais vérifier le firmware. Avant de vérifier le firmware, le processeur il exécute un premier code. Parce que le processeur, quand il démarre, il n'y a même pas de RAM, il n'y a rien. C'est le néant. Et du coup, le processeur dit que la lumière fuit, la lumière fuit. Voilà, c'est sans la lumière, sinon il ne peut rien. Et ce premier code qui est exécuté, il est quand même signé. C'est quand même un premier bout de firmware. Et il est protégé. Alors, dans le cas d'Intel, c'est ce que Intel appelle bootguard. Et bootguard, c'est quelque chose qui ne doit jamais être désactivé. C'est quelque chose que Intel rend à peu près obligatoire. C'est extrêmement restreint. C'est un élément clé de la séquence de mise à jour, de démarrage, pardon. Et il se trouve que dans les fuites chez MSI, il y a une clé privée d'Intel qui était
présente. Seulement, ils ont compromis une de leurs clés privées, mais également celle d'une autre entreprise. En plus, bon, juste Intel, c'est-à-dire un des deux principaux vendeurs de processeurs, d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables.
Et alors, bon, déjà, les conséquences de cette fuite-là, j'aimerais comprendre, mais ça peut être potentiellement désastreux, parce que je ne sais pas à quel point cette clé peut permettre de faire des firmware acceptables sur des machines encore autres que MSI. Parce que si ça se trouve, cette clé peut être acceptée par le processeur.
Concrètement, on comprend bien le problème, c'est qu'on peut installer un firmware qu'on peut trop faire. Mais quel est le vecteur d'attaque ? Alors, comment tu fais une attaque en voulant spoofer la mise à jour de firmware ? Parce que déjà...
Non, clairement, on ne cible pas effectivement l'utilisateur lambda. On parle d'attaques qui ciblent des personnes sensibles. On peut parler d'attaques de la part d'État contre des journalistes, contre des militants des droits de l'homme ou ce genre de choses dans nos chères démocratures.
Qui nécessite quand même, c'est pas voilà ce qu'on appelle le
la machine.
Voilà, c'est il faut quand même quelqu'un qui a un certain savoir-faire,
faut un à la machine,
et qui approche la personne et sa machine.
Faut des compétences, c'est pas anodin. Mais par contre, c'est une remise en question majeure de toute la chaîne de sécurité. Et ma crainte, c'est que Bootguard, à quel point ça va concerner beaucoup de machines. Et là où je ne comprends absolument pas, qu'est-ce que la clé privée d'Intel faisait chez MSI ? Qu'est-ce que c'est ce fonctionnement ? Normalement, je vois aucun scénario où MSI a besoin de cette clé. Si MSI avait besoin de faire signer des fichiers par Intel, Intel pouvait très bien mettre en place un service où MSI dépose son fichier et Intel lui renvoie le fichier avec la signature. Et puis, si demain, il y a une fuite des jetons d'accès à ce service, les jetons d'accès sont révoqués, il n'y aura pas de nouvelle fuite. Enfin, il n'y aura pas de nouvelle signature. Alors que là, non, ils ont diffusé une clé privée. Je ne comprends pas. Et encore une fois, règle évidente en sécurité, quand on a des éléments aussi sensibles, ça ne doit pas être stocké sous forme de fichier, ça doit être une carte à puce. Merde! C'est une technologie française en plus.
C'est vrai.
Bref, on va s'amuser. Je me demande quelles sont les conséquences de cette.
Merci Pierre. Eh ben,
on verra la suite peut-être les prochaines semaines.
On ne manquera pas de vous faire part des conséquences. Bon, bien évidemment, si c'est publié. Nous ne sommes pas des journalistes d'investigation. On n'est pas des journalistes. On est des libristes.
On n'est pas des journalistes tout court. Oui.
Ouais, on n'est pas des journalistes. Hein. On respecte beaucoup le travail des journalistes d'ailleurs qui nous permet d'ailleurs de faire cette émission. Cette émission donc, elle se termine. C'était le 252e numéro de l'Écho des Gnous. On était encore une fois ravis de vous retrouver. L'émission, comme toutes les émissions depuis un an et demi, sont disponibles sur notre podcast ecodegnou.org. Dans une semaine, ce ne sera pas l'Ecodegnou, ce sera comme chaque semaine impair la deuxième ligne, émission consacrée donc au jazz, au brass band et à la Nouvelle-Orléans. Très belle émission. Quant à nous, nous retrouverons donc en direct le dimanche.
En direct approximatif dans deux semaines, je crois. Moi, dans mon cas, ce sera approximatif.
Bon, on tâchera de faire une émission en direct approximatif. Donc le dimanche 21 mai de 19 à 20h, comme d'habitude, sur Radio Campus 106,6. La radio numérique terrestre et campus.com, vous commencez à le savoir. Et tout de suite, on se retrouve avec Chupa Pimento. Au revoir à tous et une très bonne fin de week-end. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, je voulais juste dire au revoir à tous aussi.
Au revoir à tous.
L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.